don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远地区的某
Bollywood stars
भी
कपड़ों की लोट चलने की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, quatrième émission en direct depuis le Bourget où se déroule bien sûr la COP21. Le parc des expositions est un petit peu plus calme qu'en début de semaine lorsque les chefs d'État et de gouvernement s'étaient tous réunis ici afin de donner une impulsion politique à ce rendez-vous. Depuis, les négociateurs ont pris le relais et les choses semblent en apparence en tout cas plus sereines parce qu'en réalité les discussions sont difficiles et tendues et pour cause. L'enjeu, bien sûr, est immense. De nombreux pays se sentent particulièrement victimes du dérèglement et voudraient voir les pays développés en faire davantage. Nous allons parler ce matin d'injustice climatique et en particulier de l'Afrique. En effet, alors que l'Afrique n'est responsable que de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, le dérèglement climatique y est particulièrement dévastateur. 6 des 10 pays les plus touchés sont des pays africains, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Soudan du Sud, Nigeria, RDC, Éthiopie. Érosion des côtes, disparition de la mangrove, sécheresse, augmentation de la température, pluies erratiques, autant d'éléments qui bouleversent l'agriculture, mais qui plus généralement ont des conséquences bien sûr politiques et géopolitiques majeures. Le président tchadien, par exemple, Idriss Déby, pointait du doigt la disparition progressive du lac Tchad, qui selon lui serait l'une des causes principales de la déstabilisation de la région. Alors qu'est-ce que les États africains attendent de cette COP21? Comment limiter le dérèglement climatique tout en permettant le développement des pays? Comment coordonner les politiques de développement et l'impératif climatique? Les délégations africaines parlent-elles du même voix ici au Bourget, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore des divergences? Mardi dernier, en marge des négociations, s'est tenu un mini-sommet réunissant une douzaine de chefs d'État africains et le président français. Afrique, l'injustice climatique, c'est notre sujet ce matin.
Nous voulions, parmi les événements de la conférence du climat, avoir une rencontre sur l'Afrique et sur les projets qui pouvaient mobiliser tout le continent. Nous avons non pas un constat à faire, mais nous avons des décisions à prendre et des financements aussi à assurer.
Avec la réunion de ce matin, on a montré au monde entier qu'on n'est pas venu faire du tourisme à Paris, mais pour faire dans le concret et avancer dans les choses qui nous tiennent à cœur et qui sont autant de défis pour nous et nos peuples.
Ce sont réellement des réponses qui ont été tentées d'être apportées sur l'ensemble du lac Tchad, par exemple. On vient d'avoir des engagements financiers assez fermes de la France, de la Banque africaine de développement, des États-Unis et de la Banque mondiale.
Voilà, on entendait François Hollande, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le président sénégalais Macky Sall. Il y a une dette écologique que le monde doit régler à l'égard du continent africain. Voilà ce qu'a déclaré François Hollande. Alors l'Afrique peut-elle gagner sa bataille contre l'injustice climatique? Voilà la grande question que l'on va débattre ce matin avec nos invités. D'abord Aissatou Diouf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de plaidoyer climat à l'ENDA, c'est comme ça qu'on prononce?
ENDA.
Et puis à vos côtés, Haïdar El Ali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous un activiste, pas tout à fait n'importe lequel, puisque vous avez été ministre de l'Environnement au Sénégal. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et puis on aura également dans un instant, qui devrait être là dans quelques minutes, qu'il est encore probablement dans les couloirs de la COP, Tosin Panumpanou, qui est négociateur pour la RDC, qui est porte-parole des pays les moins avancés. Vous avez entendu l'un et l'autre la déclaration de François Hollande, qui avant-hier donc a promis 2 milliards d'euros d'investissement d'ici 2020 pour développer les énergies renouvelables en Afrique, ce qui correspond visiblement à une augmentation de 50% par rapport au niveau actuel. C'est un bon signal, Haïdar El Ali?
Signal, oui, c'est un bon signal. Moi, je voudrais revenir à un chiffre que tu as annoncé. Tu as dit que l'Afrique est responsable de 4% du
réchauffement. C'est un peu moins que ça, en fait.
C'est un peu moins, mais surtout, c'est pas clair. Moi, je veux juste te dire des choses de manière claire. Le P des vaches européennes produit plus de réchauffement climatique que l'industrie africaine. Donc, c'est alarmant pour nous. Nous ne sommes pas responsables du réchauffement climatique. L'autre question, c'est, il ne s'agit pas de faire des déclarations, nous allons mettre 50% de plus. L'Afrique n'arrive pas à décaisser les moyens mis à sa disposition. Décaisser. On décaisse en moyenne 26% des moyens qui sont mis à notre disposition du fait de plusieurs lenteurs dont je ne reviendrai pas ici. Donc ces deux facteurs vont nous
freiner. Si, on va y revenir.
C'est important. Troisièmement, en général, on ne prend pas l'exemple de ceux qui savent faire et qui font réellement sur le terrain, qui apportent 80% de leur investissement à la terre. mais on va prendre des méga structures, ONG internationales, etc.,
qui
eux,
pas
ont des coûts. Ouais. Et ne sont pas adaptés à la réalité du terrain.
On va poursuivre notre premier tour de table avec vous, Aissatou Diouf, sur ce mini-sommet africain. Puis j'en profite pour saluer notre troisième invité, Tosin Panumpanou, qui vient d'arriver. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc je le disais, un négociateur de la RDC, puis porte-parole des pays les moins avancés ici à la COP21. Merci d'être avec nous. Aissatou Diouf, sur ce mini-sommet africain, bon signal ou pas ?
Mais un très bon signal. D'abord, il faut souligner que c'est une initiative portée par les États africains qui sont venus présenter avec un objectif fort, 10 gigawatts en 2020, arriver à 300 gigawatts en 2030, donc doubler la part des Africains qui auront accès à l'énergie. C'est important parce que sans énergie, on ne peut pas parler de développement. Donc pour nous, c'était un signal fort que les Africains ont tenu à démontrer ici qu'on n'est plus dans l'attentisme, qu'on vienne nous proposer des plans.
Et puis on n'est plus aussi dans la victimisation aussi, parce que évidemment, on attend des pays riches, mais quand on voit que les États africains ont quasiment tous, 48 États sur les 54, ont transmis leurs engagements volontaires, c'est aussi un réel désir, on le voit, de réorienter les politiques de développement vers des modèles, disons, moins polluants. Donc, on n'est plus seulement dans la posture de la victimisation, quand même. Hein. Ça, c'est très, très important.
Effectivement, à travers les contributions des pays, les États africains ont montré leur volonté à participer à l'effort collectif pour trouver une solution globale au réchauffement climatique. Et ce qui est important dans ces contributions des pays africains, on a vu cette volonté de décarboniser nos économies en enclenchant un développement sobre en carbone.
Tosin Panumpanou, première réaction peut-être à la fois sur le sommet et puis ensuite évidemment on viendra aux différentes attentes des pays africains quant à cette COP21. Tosin Panumpanou.
Le sommet est une très bonne chose. Je crois qu'on sait tous que l'accord de Paris, parce que je suis convaincu qu'il y aura un accord, ne sera pas une panacée. Il faut que cet accord soit accompagné par des décisions, par des initiatives fortes, de telle sorte que les populations africaines se rendent compte que cet accord a une pertinence pour eux. Et en ce qui concerne les INDC, c'est une bonne chose que les pays africains aient montré
les engagements volontaires, les engagements pour les auditeurs, les INDC. Oui, voilà, c'est l'engagement du dire.
Les contributions, voilà. Les pays africains ont montré donc qu'ils sont désireux de faire ce saut qualitatif vers un développement moins carboné. Mais il faut reconnaître que beaucoup de ces contributions sont conditionnées au financement. Donc il est important qu'on puisse partir de Paris également avec des engagements forts en ce qui concerne la finance internationale. Parce que s'il y a une certitude que le financement international prendra le relais, beaucoup d'États africains pourront se montrer plus audacieux et plus ambitieux.
Et c'est pas seulement les niveaux de financement qui posent problème pour les pays africains, c'est aussi comment on utilise ces financements. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les projets d'adaptation au dérèglement climatique, pour l'instant, c'est seulement 15% de ce fameux fonds vert. Ce que demandent aussi les pays africains, je crois, c'est qu'on augmente cette part-là.
Exactement, parce que l'adaptation reste la priorité des Africains, parce que comme on le dit, pour nous le changement climatique c'est pas demain, c'est maintenant. Les impacts sont visibles à tous les niveaux, sur l'agriculture, la mer avance, la sécheresse est là, donc il nous faut trouver dès maintenant des réponses pour appuyer nos communautés à vivre avec le changement climatique. Donc il est important pour le fonds vert que 50% puisse aller à l'adaptation, mais nous demandons également de l'argent public pour l'adaptation et de l'argent additionnel à l'aide publique au développement.
La priorité, l'adaptation, Tosin Panumpanou, je lisais sous votre plume, quelques jours avant la COP, on peut dérouler tous ces effets et chercher à évaluer l'impact de l'homme dans tout cela, mais quoi qu'il en soit, la lutte contre la pauvreté est notre priorité dans ces négociations climatiques. C'est ça la priorité des pays africains.
Oui, la priorité en général, même au-delà du changement climatique. Ouais. La priorité, c'est réduire la pauvreté, avoir une croissance économique qui soit inclusive. Mais pour revenir au financement de l'adaptation, le rapport de l'OCDE a été produit. Il nous renseigne que 16% seulement des financements climatiques mobilisés l'année dernière, et qui sont à une hauteur de 62 milliards, ont porté sur l'adaptation. Donc le financement climatique fait très clairement la part belle à l'atténuation. Or nous, on pollue peu, et nos émissions sont appelées à aller vers le haut. Donc il faut qu'on nous aide à voir comment est-ce qu'on puisse faire face aux effets néfastes de ce changement climatique.
Qu'est-ce que veulent concrètement les pays africains ? Il faudrait quel niveau pour que ça soit satisfaisant du point de vue des pays africains ? Je vous donne la parole dans un instant, Haïdar El Ali.
Disons
qu'on est à 15% aujourd'hui, il faut combien ?
Disons que plusieurs rapports ont été publiés et ces rapports-là donnent des chiffres différents. Il y a un rapport du programme des Nations Unies pour le développement, un rapport de la Banque mondiale. Différents rapports donnent différents chiffres. Et en fait, la fourchette, on dit très clairement que ce serait de l'ordre de 400 milliards à plus de 1000 milliards. Donc il y a des besoins et ce chiffre de 100 milliards de dollars est un chiffre politique qui ne répond pas forcément à la véritable demande. Je pense qu'on doit y aller de manière graduelle. Donc je pense que les 16 milliards identifié l'année, les 16% de 62 milliards identifiés l'année passée, c'est déjà intéressant parce qu'on commence déjà à avoir plus de clarté sur les financements mis sur la table. Mais il faut qu'il y ait une montée en puissance de telle sorte qu'il y ait une adéquation véritable entre les besoins identifiés et les financements.
Adéquation, ça veut dire quoi? Ça veut dire 50%? Vous n'avez pas répondu à ma question.
Moi, je dis que, il faut qu'il y ait effectivement une relation directe entre les besoins ressentis sur le terrain et les financements qui sont mis à disponibilité. Mais il faudrait effectivement essayer de faire une espèce de discrimination positive par rapport à l'adaptation et dire qu'il y ait au moins 50% des ressources qui soient allouées.
Haïdar El Ali, sur ce fonds vert.
Bon, sur ce fonds vert.
Et puis j'aurais envie de vous poser une question. Est-ce que finalement le fonds vert peut sauver l'Afrique?
Non, en réalité, là, pour moi en tout cas, le vrai problème n'est pas là. Les ressources africaines sont pillées par des gens qui le font de manière illégale, les bateaux qui pêchent illégalement, les sociétés qui viennent piller nos ressources illégalement forestières, et aussi par des entreprises qui sont légalement installées, qui ont des droits. Je peux donner l'exemple de sociétés très connues qui étaient installées à 6 km à l'intérieur d'un parc national pour chercher de l'or. Donc, nos ressources sont pillées de manière légale et illégale. Donc, c'est surtout vers cela qu'il faut aller.
L'urgence. Avec la complicité, c'est ce que vous dites aussi, avec la complicité des chefs d'État et gouvernements africains. Enfin, il y a une double responsabilité.
Absolument, il y a une double responsabilité parce que quand, par exemple, les Chinois sont installés en Gambie et qu'ils sont en commande de 7000 conteneurs de bois de veine qui sont pillés sans aucune forme d'autorisation dans la forêt de Medina Yorofula, ce produit, il est exporté par des structures internationales connues sur la base d'un certificat d'origine gambien, alors que ce certificat, il est faux. Quand les sociétés extractives ont des autorisations, très souvent, c'est parce que des valises ont circulé. Donc, je suis désolé, mais pour moi, la ressource africaine qui est une source de survie, parce que nos économies ne sont que des économies de prélèvement. Le pêcheur, il prend le poisson, il consomme, il vend, il règle ses problèmes de santé, d'éducation, de scolarité, etc. S'il n'y a pas de poisson, cet homme, il prend la pirogue et on voit tout ce que ça cause dans le ventre de l'Atlantique. Donc pour moi, la COP21, c'est très bien, mais ce n'est pas l'économie verte, la soi-disant fonds vert ou la COP21, la priorité des priorités, pour moi, c'est une gestion responsable de nos ressources.
Ça peut pas suffire, mais c'est déjà ça, Aissatou Diouf. Vous, ce qui vous inquiète en particulier, ce qui inquiète les pays africains, s'agissant de ce fonds vert, c'est évidemment les niveaux de financement, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va le financer, et notamment après 2020.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est qu'on parle également des financements pour l'après 2020, parce qu'elle est importante, mais aussi des financements pour la période 2016-2020, dont les 2 milliards promis par la France pour appuyer l'initiative africaine sur l'énergie, donc va porter sur la période 2016-2020. C'est important, mais pour nous, il est également important de voir au-delà quels sont les financements qui seront sur la table pour l'après 2020 pour permettre aux États africains de pouvoir faire de la planification sur le long terme en sachant dès maintenant qu'est-ce qu'ils vont avoir et comment faire la planification.
Tosin Panoum-Panou, ces dernières années, l'Afrique a vu un certain nombre de financements climatiques lui passer littéralement sous le nez, notamment avec le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, qui est en fait l'ancêtre du Fonds vert. Il y a eu à peine 10% des finances, des fonds qui ont été alloués aux pays africains, alors que d'autres pays, la Chine, le Brésil, ont obtenu beaucoup, beaucoup, beaucoup de financements. Comment l'expliquer? Et est-ce que c'est pas aussi la responsabilité des États qui n'ont peut-être pas su présenter des projets suffisamment solides? Je reprends là tout simplement la parole de Carlos López, qui était le secrétaire général de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui disait que tout était allé à la Chine et au Brésil, enfin beaucoup en tout cas, parce qu'ils avaient eux la capacité de présenter de bons projets. Tosin Panoum-Panou.
Oui, j'abonde dans son sens. Hein. Il faut présenter des projets qui soient des projets bancables. Je pense que effectivement, il y a de l'argent qui est là. Mais maintenant, c'est comment accéder à cet argent. Et il y a plus que le GEF, il y a une véritable galaxie de fonds, de financement, mais qui ont chacun des modalités d'accès différentes, qui ont chacun des conditionnalités différentes. Et donc, c'est déjà un peu compliqué de bien comprendre toutes ces conditions pour y accéder. Mais une fois qu'on les comprend, comment effectivement approcher avec des financements qui soient bancables. C'est comme ça que lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration du Fonds Vert a décidé que environ 10% de la valeur des projets soit allouée à la préparation des projets, jusqu'à une hauteur de 1,5 million de dollars. C'est-à-dire que si vous avez une idée de projet, un concept, et le projet portera peut-être sur 20-30 millions de dollars, eh ben environ 10% de son montant, jusqu'à hauteur de 1 500 000 dollars, peuvent être alloués à la préparation de ce
pour
projet.
Pour ficeler de bons projets. Absolument. Pour ensuite être en capacité d'obtenir justement ces fonds-là.
Voilà, absolument.
Haïdar El Ali.
Ça nous intéresse beaucoup parce que nous au Sénégal, en tout cas, on a le mérite d'avoir le plus grand projet de restauration de mangrove de la planète. C'est pas les Chinois, c'est pas les Américains, c'est le Sénégal. Et 17 000 hectares restaurés par un fonds privé, hein, le fonds Livelihood, qui a financé 4 millions d'euros pour cela. Aujourd'hui, on va vers des réflexions pour dire, ils ont financé pour prendre l'argent du carbone. Nous, on a planté pour récupérer nos champs de riz. Donc, c'était à peu près gagnant-gagnant. Mais l'argent du carbone va vers ce financement. Alors, on dit, on va mettre en place un projet pour toute la zone Ouest-Afrique, qui couvrira donc tous les pays qui partagent cette zone humide de mangrove, pour restaurer la mangrove dans ces pays-là. Il nous faut un financement, on sait écrire des projets, mais quand les États déposent les projets, notre projet, il n'est pas en avant. Donc, c'est très souvent...
Donc là, c'est la responsabilité des États, en l'occurrence de l'État sénégalais.
Absolument, des États, en tout cas en général.
Oui, en particulier le Sénégal.
Ils ont d'autres priorités, que je comprends, hein, que je respecte. Mais en tout cas, je dis, la ressource planète Terre, en tant que Gaïa, espace vivant, doit être pris en compte par une espèce de OME, Organisation Mondiale de l'Environnement, comme il y a l'Organisation Mondiale de la Santé, pour qu'on puisse dépasser les États, parce que les priorités, parfois, des États ne sont pas celles de la planète.
Aïssatou Diouf, Biragien.
Je voulais dire, par contre, que pour nous, ce processus, il est important, ce processus des négociations sur le climat, c'est important, et on en a encore besoin, parce que c'est le seul lieu où les États-Unis, la Gambie, le Sénégal peuvent s'asseoir sur une même table et discuter, et dire... Souligner également l'exemple du Sénégal, qui a été le premier pays au monde à bénéficier du fonds d'adaptation. Donc ce fonds a permis de 9 millions de dollars environ, a permis de récupérer des terres salinisées, de permettre aux femmes de continuer à faire de la riziculture, a permis de construire des digues à Tchaoulène, parce que la mer avancée à Sali, qui est une zone touristique et balnéaire. Et le Sénégal a également été réaccrédité au niveau du fonds vert. Donc c'est important. Le Sénégal est constitué un exemple pour beaucoup de pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest, qui ont envie également de pouvoir bénéficier de ce fonds vert et d'être accrédité au niveau du fonds vert. Je pense que c'est de bons exemples qu'il faut également souligner pour montrer que les États africains font des efforts pour être accrédités et bénéficier de ces fonds et également de bien l'utiliser.
Surtout que Sali, c'est important, hein. C'est une région magnifique pour y être allé il y a une vingtaine d'années, ça vaut vraiment le coup. Tosim Panou Mpanou, la question de la stratégie des États africains dans cette COP21, parce que lors des précédents sommets, Copenhague notamment, l'Afrique était un petit peu arrivée, j'allais dire, en ordre dispersé, peut-être sans stratégie commune. Il y avait beaucoup de divergences entre les différents États africains. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent? Vous qui êtes le négociateur de la RDC, porte-parole des pays les moins développés dans cette COP21, est-ce que vous avez le sentiment que finalement les délégations africaines ont préalablement défini un certain nombre de choses, un certain nombre de principes pour peser le mieux possible dans ces négociations? Vous qui vivez là depuis quelques jours au cœur de ces négociations?
Oui, les 54 pays africains comprennent bien que pour que leur voix soit entendue, ils doivent parler d'une même voix, même et seule voix, parce que c'est une masse critique qu'on ne peut pas ignorer. 54 pays dans un forum qui en compte 195 plus l'Union européenne. Et une décision de l'Union africaine en 2013 a établi que le groupe des négociateurs africains soit en contact immédiat avec le niveau politique. Donc lorsque nous affinons nos positions, nous les maturons, il nous les envoie ensuite au niveau politique, au niveau de la conférence africaine des ministres de l'environnement, la CMAE. Et cette conférence des ministres africains de l'environnement, ensuite, envoie ses recommandations au niveau de la conférence des chefs d'État africains sur le changement climatique. Et donc la décision de l'Union africaine exige que le pays qui chapeaute la conférence des chefs d'État soit le même que celui qui chapeaute la conférence ministérielle, de telle sorte qu'il y ait un lien direct
en l'occurrence, c'est
et insécable. C'est l'Égypte en ce moment.
Ouais, d'accord.
Et donc les négociateurs africains sont arrivés à une position commune qu'ils ont donnée à nos ministres lors d'une réunion au Caire il y a quelques mois. Et les ministres ont transmis cette position.
Et vous sentez la différence très concrètement dans les négociations ?
Je pense que oui. Je pense qu'on sent que l'Afrique s'engage.
Vous
de
pensez
manière...
Vous n'avez pas l'air sûr. Hein.
Non, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce que l'Afrique d'ailleurs est derrière beaucoup d'initiatives qui sont en ce moment en négociation. L'Afrique est derrière le concept d'un cadre sur l'équité, puisque en ce moment on parle beaucoup d'équité en disant pourquoi certains pays devraient faire des engagements, prendre des engagements alors qu'historiquement ils n'ont pas de responsabilité. L'Afrique est derrière beaucoup de positions, de propositions sur le financement. L'Afrique est derrière le concept d'un objectif global pour l'adaptation, puisqu'il y en a un pour la hausse de la température globale. Et donc l'Afrique, on sent l'Afrique présente dans toutes les questions de négociation.
Ouais, et puis il y a aussi des choses très importantes au niveau de l'énergie. Il y a une initiative africaine commune sur les énergies renouvelables, mais on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais juste vous entendre l'un et l'autre, Aissatou Diouf et Haïdara El Ali, sur cette question de la stratégie. Est-ce qu'on a effectivement, vous observez-vous, une stratégie commune aux différents États africains et parce que évidemment, c'est ce qu'on avait beaucoup regretté lors des précédents sommets. Vous sentez-vous qu'il y a une véritable évolution ? On est là avec un continent africain venu en ordre serré, derrière les mêmes principes, les mêmes engagements, Aissatou Diouf ?
Effectivement, nous sentons Groupe Afrique de plus en plus unis sur les enjeux majeurs pour l'Afrique, que ce soit la réduction des émissions à 1,5 degré, et ça a été réaffirmé politiquement par les chefs d'État qui étaient là à l'ouverture du sommet, qui ont tous dit que voilà, pour nous, le plus important, ce n'est pas d'arriver à une trajectoire en deçà de 2 degrés, mais
surtout,
bien...
faut quand même rappeler que pour le moment, on est largement au-dessus, hein.
On est sur une trajectoire de 1 degré, mais pour l'Afrique et les dirigeants et les négociateurs...
Oui, je parle au niveau du monde. On est à plus de 3 degrés.
On a ici une trajectoire de réchauffement de 1 degré. Et pour les négociateurs africains et les chefs d'État...
Non, Tosin Panou, il fait non de la tête. Moi, effectivement, de tout ce que j'ai lu, on est au-dessus des 2 degrés quand on regarde les différents engagements
au niveau du monde.
Sur les contributions, on est largement au-dessus. Ah, oui, c'est ça que je voulais dire.
Si on ne s'est pas compris. Si on regarde les contributions qui sont sur la table, on est sur une trajectoire de plus de 3 degrés. Oui. Donc, il nous faudrait trouver des mécanismes pour rester en deçà de 2 degrés. Mais sur la position politique portée par les négociateurs et les chefs d'État africains...
Vous sentez une différence.
On sent une union.
Haïdara El Ali, c'est l'union des pays africains ?
Oui, mais seulement je pense, hélas, dans le discours, parce que c'est un effet de mode aujourd'hui, tout le monde parle de l'environnement, du réchauffement climatique, c'est bien d'en parler, mais quand il y a... Je ne parle pas du Sénégal, bien sûr, mais dans beaucoup de pays, on est déjà à des préoccupations de démocratie, déjà. Donc, quelqu'un qui n'est pas démocrate, il ne s'occupe pas de papillons et de poissons. Ensuite, le monde, pour moi, vit une société qui n'est pas adaptée à la durabilité de la planète, parce que tout ce que nous produisons, il faut rappeler que 50% de toutes les richesses de la planète appartiennent à 10 grandes familles, que 1% de la planète possède 86% de tout ce qu'elle produit. Ça veut dire que les 99%, depuis leur naissance jusqu'à la mort, travaillent en tant qu'esclaves démocratiquement élus à enrichir cette société. Et ça, ce n'est pas
esclave
viable.
Démocratiquement élu.
Mais bien sûr, depuis ma naissance jusqu'à ma mort.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde toute cette semaine au cœur de la COP21 ici au parc des expositions, au parc exposition des Bourget, avec Haïdara El Ali, Aissatou Diouf, Tosin Panou autour de cette question, l'Afrique, l'injustice climatique. On va rester évidemment du côté de l'Afrique pour cette avant-dernière écho du Bourget avec vous, Clémence Alézard. Bonjour Clémence.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors un écho qui fait écho justement au sujet du jour, hein. On va rester sur le continent africain.
Sachez, Florian, qu'on peut, au hasard d'une errance de conférence en conférence, tomber nez à nez avec un négociateur. C'est ce qui m'est arrivé hier au pavillon gabonais. Le professeur Lee White est le secrétaire exécutif de l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Cette agence qui traque, par exemple, les braconniers dans les forêts gabonaises grâce à ses équipes d'éco-gardes. Et le professeur Lee White fait partie des négociateurs, justement, pour son pays. Alors qu'il sortait à peine d'une harassante, m'a-t-il dit, journée de négociation, il se félicitait d'avoir porter haut la voix de son, je cite, certes petit pays, mais dont la voix compte, et notamment, justement, sur les questions de sauvegarde de la forêt. Les forêts, qu'elles soient amazoniennes, indonésiennes ou tropicales dans le bassin du Congo, elles sont largement menacées. En 25 ans, la planète a perdu plus de 50 000 hectares de forêt, et à chaque minute, ce sont quelques 2400 arbres qui sont coupés. Mais parmi ces constats alarmants, le Gabon fait figure de bon élève. Le taux de déforestation du Gabon n'est que de 0,02%. Alors que son territoire est recouvert à 88% par ce deuxième poumon vert après l'Amazonie. Lundi, Ali Bongo, le président du Gabon, a réaffirmé l'ambitieuse contribution, l'INDC, donc du Gabon, soumise aux Nations Unies. D'ailleurs, très tôt, le 1er avril 2015, le pays s'engage sur la période 2010-2025 à réduire d'au moins 50% ses émissions de gaz à effet de serre. Dans un pays dont l'économie dépend largement de son activité et de ses exportations pétrolières, limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au torchage à gaz est un défi. Or, bien conscient de son potentiel économique, Ali Bongo, de ses forêts, Ali Bongo ne compte pas pour autant mettre sa forêt sous cloche. Qu'on ne lui demande pas de choisir entre développement économique et préservation des forêts, il vous dirait « débrouillez-vous, trouvez-moi quelque chose ». C'est ce qu'il avait dit au Conseil climat convoqué au sortir de l'échec de la conférence de Copenhague. Mais y a-t-il un fossé entre ce volontarisme politique affiché et la réalité? Le Gabon a-t-il aussi les moyens financiers et humains de ses ambitions? Éléments de réponse tout d'abord avec le professeur Lee White, secrétaire donc de cette Agence nationale des parcs gabonais.
21% du Gabon aujourd'hui a un statut d'air protégé. Nous avons presque 15 millions d'hectares de permis forestiers, mais qui sont aujourd'hui gérés sur des plans de gestion durable. On a modifié la façon d'exploiter la forêt sur les derniers 10-15 ans. Plutôt que couper et puis transformer la forêt en agriculture, on est plus dans les plans de gestion sur les rotations de 25 ans qui pérennisent une couverture forestière. Donc il y a toute une stratégie intégrée de préservation et de gestion durable qui commence à marcher. Le Gabon, c'est un pays avec une faible population. Donc c'est peut-être beaucoup plus facile au Gabon que dans d'autres pays avec les populations plus importantes. Mais effectivement, on arrive à la fois préserver l'environnement, à la fois faire une gestion durable, à la fois développer des axes routiers, des mines, des villes et tout ça. Tout est une question de bonne planification et de bonne gouvernance.
Est-ce que le Gabon a les moyens, en l'état actuel, économique, financier, humain, d'assurer cette bonne planification, cette exploitation durable?
Je suis le directeur de l'Agence nationale des parcs nationaux au Gabon depuis 6 ans. Et on n'a jamais, en 6 ans, laissé un éco-guard sans salaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 700 personnes à la MPN pour faire le travail de 1500 personnes. Mais on a fait beaucoup de progrès. Il y a 5 ans, on était 60. On a des voitures sur le terrain, on a des hommes sur le terrain, on a des avions sur le terrain, on a des bateaux sur le terrain. La moitié du budget de l'Olympienne vient de l'État. Et ensuite, pour reconnaître l'effet que les parcs au Gabon jouent un rôle international, on stocke du carbone, on sécurise des services écosystémiques, on protège la biodiversité, on n'a pas honte de demander à la communauté internationale de financer la deuxième moitié. Nous avons toute une stratégie de surveillance de l'exploitation forestière. Surveillance à terre, donc nous avons un mandat sur les parcs, mais également aujourd'hui un mandat de regarder l'exploitation forestière illégale. Mais en même temps, on a créé une agence d'observation spatiale qui a la possibilité d'obtenir des images satellites tous les jours maintenant pour détecter toutes les ouvertures dans la forêt. Pour nous donner des informations, il y a une nouvelle route passée ou il y a une nouvelle ouverture par là pour que nous, on peut aller sur place pour voir est-ce que, oui ou non, c'est une exploitation forestière légale ou illégale.
Ce matin, j'ai tout de même demandé à Jean Bakouma, spécialiste des forêts tropicales du bassin du Congo pour WWF, s'il partageait cet optimisme et si surtout il avait confiance en la bonne gouvernance du Gabon.
Non, s'il y a un vrai problème de forêt en Afrique centrale et particulièrement dans le bassin du Congo, c'est bien le problème de la gouvernance forestière. Ce n'est pas pour rien que l'Union européenne a décidé de faire adopter à l'ensemble de ces pays ce qu'on appelle les accords de partenariat volontaire pour s'assurer que le bois qui est en provenance de ces pays, quand il viendra sur le marché européen, qu'il soit légal. Or, il y a deux pays, le Cameroun et le Congo, qui sont déjà engagés depuis les années 2010 et le Gabon traîne les pieds. Et ce n'est que maintenant qu'ils sont en train d'essayer de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Donc, de mon point de vue, en tout cas, vu les faits, la question de la gouvernance forestière au Gabon reste posée.
Et ce projet de satellite qu'évoquait justement le professeur Lee White quand je lui ai parlé hier, donc qui permettrait de s'assurer peut-être avec des images nettes du ciel parce que donc le ciel est très nuageux, est-ce que là ce n'est pas une manière, un garde-fou pour éviter justement une exploitation illégale, pour vérifier aussi que les entreprises qui viennent s'implanter sur le sol gabonais agissent conformément à cette nécessité de développement durable?
Non, mais c'est une bonne idée, l'idée de satellite pour regarder ce qui se passe en forêt. C'est une idée que je connais très bien puisque ça relève du projet de conversion de dette du Gabon vers la France que le WWF et l'Agence française de développement avaient décidé que le Gabon propose un projet. Et donc, ce projet a été accepté. Mais la question des images satellitaires dans le bassin du Congo, c'est que nous avons souvent un couvert nuageux. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la précision de ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs, lundi, il y a eu un SAD event ici sur les forêts. Les modélisations qui projettent la déforestation au Gabon pêchent sur ce point-là parce que il n'y a pas beaucoup de précision. Alors, même si on pouvait avoir de ces bonnes images, mais qu'est-ce qui est fait en matière de capacité pour aller contrôler effectivement ce qui se passe sur le terrain? Là, il y a une faiblesse, ça manque de transparence. Et donc, la politique forestière gabonaise a encore du chemin à parcourir. Le bois illégal, aujourd'hui encore, un avenir dans ce pays parce que, avec l'industrialisation des bois du Gabon, il manque un système de traçabilité des produits transformés. Or, c'est là que c'est plus compliqué à faire. On peut tracer les grumes, les bois bruts, mais c'est très compliqué de tracer les bois transformés. Mais est-ce qu'ils ont déjà mis quelque chose en place pour ça? Je me le demande.
Voilà, Jean Bakouma, donc spécialiste des forêts du bassin du Congo pour WWF, que vous interrogez donc à votre micro, Clément Salazar, pour cet écho du Bourget. Réaction ici en plateau, peut-être Aïda El Ali. Effectivement, hein, il nous dit la question de la gouvernance des forêts, elle reste entière. Évidemment, il y a des politiques qui sont mises en place, on peut s'en réjouir, mais tout n'est pas parfaitement satisfaisant, Aïda El Ali.
Ah, pas du tout. Pas du tout, et... Je rigole un peu quand j'entends le monsieur du WWF.
Enfin, vous riez jaune en entendant.
Parce que chez nous, en tout cas, le WWF a fermé, heureusement, parce que ce qu'ils ont fait dans mon pays n'est pas réjouissant.
C'est-à-dire?
Le Greenpeace Sénégal, c'est pareil. Et c'est un peu dommage que ces grandes ONG qui sont reconnues dans la planète, quand ils arrivent en Afrique, ils se comportent de manière assez honteuse.
Vous êtes d'accord, vous, avec ça, Issatou Diouf? Les grandes ONG, quand elles arrivent dans les différents pays, se comportent assez mal, nous dit Aïda El Ali. Allez-y.
Aïda El Ali, vous êtes là pour ça. Le WWF Sénégal a fermé parce qu'il y a eu... Le directeur du WWF ne finançait qu'Envipêche, qui n'est une association dirigée par sa femme. Quand on a dénoncé cela pendant longtemps, 3 ans, et que ça a arrêté, il a monté une autre structure... et 6 mois après, il a épousé la femme qui dirigeait cette autre structure. Le WWF, maintenant, il est fermé au Sénégal. Le Greenpeace Sénégal, quand j'ai signé, j'étais ministre de la Pêche, j'ai signé l'accord avec l'Union européenne sur le thon. Je précise bien le thon. Parce que depuis 2006, les bateaux européens, espagnols, français, pêchaient le thon dans mon pays avec un permis, comment ils appelaient ça, un permis exceptionnel. Donc, qui ne payait aucun droit au Sénégal, une autorisation exceptionnelle, voilà le mot que je cherchais, 2006, 2007, jusqu'en 2013, je suis allé voir l'Union européenne, j'ai dit, bon, le thon, les instances internationales de recherche disent que nous avons encore les stocks disponibles, que le Sénégal peut pêcher 50 000 tonnes, on ne pêche que 15 000 tonnes. Mais payez-nous nos droits. Alors, ils ont payé 10 milliards de francs CFA, 150 millions d'euros, je crois, et Greenpeace Sénégal a tiré la sonnette d'alarme en disant le Sénégal signe des accords de pêche et montre à la télévision sénégalaise, dans toutes les chaînes, des bateaux industriels en train de pêcher le démersal côtier, le démersal profond, en train de pêcher le petit pélagique, ce qui était complètement faux puisque l'accord ne concernait que le listao, un thon, un poisson disponible qui n'est pas pêché par la pêche artisanale. Tout ça pourquoi? Parce que le chargé de communication du Greenpeace Sénégal, c'est Mademoiselle Koulibaly, et le président du GAIPS, donc Groupement des Armateurs Industriels du Sénégal, c'est Monsieur Koulibaly. Alors, si ça, c'est pas de la corruption, pardon.
Tosim Panoumpanou, est-ce que vous vous reconnaissez dans les critiques formulées par Haïdar El Ali, et puis plus globalement, pour revenir sur ce que le sujet proposé par Clément Salazar, sur cette question de la gestion des espaces forestiers? Vous êtes, vous, le négociateur de la RDC, il y a aussi beaucoup de forêts en RDC. Alors, est-ce que il vous semble que ce qui est proposé du côté du Gabon est déjà une bonne avancée, ou est-ce que vous êtes aussi peut-être critique à l'égard de cette politique?
Bon, déjà, en termes de l'action des ONG internationales, c'est vrai que quelquefois, elles viennent, elles essaient de faire notre bonheur pour nous et sans nous. Je pense qu'elles viennent dans des pays qui sont des pays souverains, des pays qui font face à de nombreux défis. Et Paris ne s'est pas construite en un jour. Il faut laisser le temps au temps, et les pays tentent bien que mal d'aligner leur développement avec des modes de consommation et de production qui soient plus vertueux par rapport à l'environnement. Donc il est très aisé de venir et de jeter la pierre. Et quelquefois, ces ONG elles-mêmes sont sujettes à de véritables problèmes de gouvernance. En ce qui concerne la forêt gabonaise, le Gabon a effectivement, depuis de longues années, fait montre d'un comportement vertueux. Et nous nous en réjouissons. Et à bien des exemples, le Gabon est un pays qui peut servir d'exemple. Mais de manière objective, hein, je dois le dire, le Gabon, par rapport à mon pays, est un petit pays, et en termes de taille, hein, entendons-nous bien,
et
de population, et donc il est peut-être plus aisé d'entreprendre des choses qu'en RDC. Et en RDC, la forêt est beaucoup plus immense. Il y a 75 millions de Congolais, il n'y a qu'environ 9 à 10% d'entre eux qui ont accès à l'électricité, donc le reste se tourne vers la forêt. Il y a eu quelques problèmes en termes de conflits, donc il n'est pas aisé également de surveiller une frontière qui parfois est poreuse. Tout ça fait que les défis ne sont pas les mêmes.
Vous parliez d'énergie justement, Tosim Panoumpanou. Je voudrais qu'on en vienne à l'énergie. L'Afrique se présente avec un programme central, l'Initiative africaine sur les énergies renouvelables, qui vise à combler le terrible déficit énergétique du continent. Quel regard vous portez les uns et les autres sur cette initiative? Est-ce qu'il est à la hauteur de l'enjeu énergétique? Je crois que pour le moment, en tout cas c'était les chiffres de 2013, on a près de 70% de l'électricité sur le continent africain qui est produite via des hydrocarbures, le charbon, le gaz, le fioul. Est-ce que ce programme n'est pas un peu, j'allais dire, trop ambitieux, voire carrément utopique? Est-ce qu'on va réussir effectivement à renverser le rapport de force entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables? Est-ce que tout ça vous paraît satisfaisant, disons, Haïdar El Ali? Évidemment, l'énergie, c'est extrêmement important, c'est central pour le développement de l'ensemble du pays, du continent, pardon.
Bon, je crois qu'au Sénégal, on fait beaucoup d'efforts sur l'énergie. On est en train de mettre du solaire pour accéder dans les villages. Je crois que c'est une bonne chose. Moi, je suis pas très spécialiste de l'énergie et j'aime pas parler des choses que je maîtrise pas. Mais le président a porté son discours essentiellement sur l'énergie renouvelable. Son expérience en Inde lui a permis d'avoir une vision claire sur la durabilité de l'exploitation. Il a bien dénoncé le fait que on ne produit de l'énergie qu'avec des groupes électrogènes. Nous, on a deux petites centrales au charbon qui vont s'installer. Quand je compare cela avec la Chine, avec l'Allemagne, bon, c'est... mais en tout cas, on fait des efforts sur ce côté.
Aïssatou Diouf, sur cette question de l'énergie.
Je pense que c'est une initiative très ambitieuse, mais qui est à notre portée. Ça a été très bien réfléchi, avec des échéances, donc 2020-2030, pour nous permettre de relever notre ambition. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir les financements nécessaires, avoir la technologie nécessaire. Et n'oublions pas que le solaire coûte de moins en moins cher, donc l'énergie renouvelable devient de plus en plus à notre accès.
Donc ça veut dire qu'il faut aussi organiser des transferts de technologie.
Exactement, c'est important, et c'est également dans le cœur des négociations de Paris.
Tosim Panoumpanou.
Disons que la Hollande produit du fromage Gouda, et la Hollande produit des tulipes. Donc la Hollande a un avantage comparatif pour produire ces produits-là. L'Afrique est un continent
pour c'est un paradis.
Il y a
pour
certaines tulipes qui sont produites, vous le savez, sur le continent africain par ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Notamment au Kenya. Enfin bon.
Je sais. Et qui, lorsqu'elles sont vendues sur la place de Paris, effectivement, ont une empreinte carbone assez
Parenthèse fermée.
Donc dans tous les cas, ce que je voudrais dire moi, c'est que donc en termes de comparatif, d'avantages comparatifs, l'Afrique effectivement est un paradis pour les énergies renouvelables, que ce soit du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectrique, et il faut donc qu'on puisse en profiter. Il faut également que les pays puissent aller dans une transition énergétique, simplement parce que il y a beaucoup d'avantages qu'on peut y trouver, notamment.
Mais vous avez l'impression, les avantages on les connaît, mais vous avez l'impression que vraiment on y va précisément?
Je crois que oui.
Jean-Louis Borloo, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, s'est lancé dans un immense défi d'électrification de l'Afrique. J'ai réuni les conditions pour faire passer le taux d'électrification du continent de 30% à 80% d'ici 2025. Il mobilise tous ses réseaux, il mobilise toutes ses connaissances pour convaincre les différents acteurs industriels, pour réunir aussi les fonds pour électrifier le continent. Tous les groupes, les grands groupes industriels français sont là. Bolloré, EDF, Dassault, Total, Veolia. Vous avez l'impression vraiment qu'on est dans cette logique?
Je pense qu'il faudra trouver différentes solutions pour différents endroits. Si on va dans une ville où il y a une population qui devient de plus en plus riche, effectivement, elle aura un pouvoir d'achat pour acheter l'énergie produite. Si on va dans une zone rurale où les gens sont relativement pauvres, il faudra peut-être trouver une autre solution. Mais dans tous les cas, il faut arriver à trouver des solutions qui arrivent à produire l'électricité de manière décentralisée, de telle sorte qu'il y ait des mix énergétiques qui soient autonome. Et pour y arriver, il y a des solutions aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable qui permettent donc d'y arriver. Et donc effectivement, moi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en se détournant des carburants d'origine fossile, on permet d'avoir une contribution positive sur sa balance des paiements. Parce que importer du pétrole grève les budgets des pays. Donc je pense que certaines solutions en termes d'énergie renouvelable, même si elles paraissent onéreuses au début, sur le temps, sur la durée, ce sont des solutions qui en valent la peine.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, toujours en direct depuis la COP21 au parc des expositions du Bourget, Afrique, l'injustice climatique avec Haïdar El Ali, Aïssatou Diouf, Tosim, Panou. On va retrouver, je le disais tout à l'heure, hein, mardi s'est déroulé ce mini sommet sur l'Afrique ici au Bourget avec François Hollande, avec une douzaine de dirigeants africains, dont le président nigérien Mahamadou Issoufou. Il en a profité pour souligner notamment le lien entre l'assèchement du lac Tchad et le terrorisme, une région où sévit notamment la secte islamiste Boko Haram. On a rencontré justement le président nigérien. Il nous a confié les grandes attentes de son pays à l'égard de cette COP21 et des chefs d'État qui s'y sont retrouvés, notamment sur la question des financements dont on parlait tout à l'heure. Vous allez voir très vite, ce président nigérien, il a insisté sur les dégâts d'ores et déjà extrêmement visibles du dérèglement climatique sur son pays. Mahamadou Issoufou, président du Niger.
Moi, je viens d'un pays qui est très vulnérable, le Niger, où on enregistre une augmentation de température extrême. Au Niger également, nous constatons qu'il y a des périodes de sécheresse avec des périodes d'inondation au cours de la même saison. J'ai le lac Tchad qui est en train de mourir, il y a le fleuve Niger qui est en train de s'ensabler, le désert qui avance. Tout cela, ce sont les conséquences du changement climatique. Alors, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que l'Afrique attend de la présente conférence? Déjà, au niveau de l'objectif, nous souhaitons que l'objectif soit non pas de limiter la hausse de la température à 2 degrés d'ici la fin du siècle, mais à 1,5 degré, dans la mesure où une hausse de température de 2 degrés pour le monde veut dire une hausse de 3 degrés pour l'Afrique. Donc, premier enjeu pour nous, c'est de faire passer cet objectif de la limitation à 1,5 degré.
Sauf que pour le moment, vous le savez, les engagements qui ont été pris ne sont pas du tout dans les clous. On est bien au-delà des 2 degrés.
C'est ça le deuxième enjeu. Les contributions nationales et en particulier les contributions des pays développés à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Les contributions actuelles nous portent au-delà des 2 degrés. Nous portent autour de 3 degrés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des efforts encore, qu'il faut que les pays pollueurs fassent, les pays développés en particulier. Il y a actuellement 4 à 5 pays qui sont responsables de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu, c'est aussi cette contribution que ces pays-là doivent apporter pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre.
Ensuite, l'autre
enjeu, c'est le financement. Il faut financer toute la riposte, toutes les mesures qui sont nécessaires pour faire face aux conséquences des changements climatiques. Non seulement financer les mesures d'atténuation, mais également financer les mesures d'adaptation. Et nous, Africains, ce que nous voulons, c'est que le financement entre atténuation et adaptation soit effectivement équilibré. Donc là, nous sommes partisans à ce qu'on organise mieux le commerce des émissions, le commerce, la taxe carbone. Il faut que les pollueurs payent effectivement. On parle d'une taxe de 20 $ par tonne de carbone. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers un financement de 50 $ par tonne de carbone émise.
Mais il y a un double problème. Il y a à la fois le fait que vous le dites, la tonne de carbone n'est pas assez chère, mais il y a aussi un problème fondamental qui est que les États-Unis et la Chine, pour le moment, n'acceptent pas cette idée d'une taxe carbone. On n'arrivera pas à mettre en place une taxe carbone à l'échelle mondiale.
On ne désespère pas de faire évoluer ces pays parce que l'enjeu est important pour la planète. C'est ou bien ça, ou bien participer à un drame. Le réchauffement climatique, vous voyez les conséquences. J'ai parlé des conséquences pour le Niger, mais au plan mondial, vous avez l'élévation du niveau des mers, des îles qui vont être engloutis. Vous avez l'acidification des océans. Vous avez la fonte de la banquise arctique. Vous avez la fonte des glaciers et des montagnes. Mais personne ne peut rester indifférent devant ces catastrophes qui commencent déjà, qui sont annoncées, qui vont s'amplifier. Donc, ces pays auxquels vous venez de faire allusion, je pense que de plus en plus seront sensibles à la nécessité de prendre des mesures pour limiter la catastrophe.
Est-ce que vous essayez, avec les pays qui sont limitrophes au Niger, de vous coordonner, de coordonner vos efforts pour peser davantage dans les négociations ?
C'est ce que nous faisons. L'Afrique, de manière générale, a une position commune. L'objectif de 1,5 degrés Celsius, c'est un objectif à l'échelle du continent. La question des contributions des pays pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est également une position commune au continent. L'équilibre qu'il faut trouver entre les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation, c'est une position qui est commune au continent. La question du transfert de technologie, c'est une question qui est commune au continent. Et puis la nécessité de mobiliser les financements, comme je l'ai dit, pour le fameux fonds vert, rassembler 100 milliards par an d'ici 2020, c'est une position qui est commune à l'ensemble du continent. Donc l'Afrique est venue en ordre serré et a une position commune face à toutes les questions.
Toute dernière question, puisque le Niger a une frontière commune avec le Burkina Faso, qui vient d'élire un nouveau président, c'est donc Roch Marc Kaboré qui va prendre ses fonctions là dans quelques jours. Une réaction à cette élection et peut-être un message.
Je me félicite de ce qui s'est passé au Burkina. Je me félicite que ces élections se soient déroulées de manière paisible, dans la transparence. Il y a un vainqueur, Roch Christian Kaboré. Je ne peux que le féliciter et lui souhaiter bonne chance.
Ouais, le Burkina Faso qui, malgré la transition difficile, mais finalement menée à bien, eh bien, cette élection a eu lieu et donc on a un nouveau président qui a pris la suite de Blaise Compaoré, renversé, on s'en souvient, par la rue après 27 ans de pouvoir. Le Burkina Faso qui, lui aussi, avait transmis justement ses engagements volontaires. C'était donc Mahamadou Issoufou, le président du Niger, lui depuis 2011. Haïda El Ali, je voudrais vous entendre, je vous ai vu, allez, au moins dubitatif parfois en entendant Mahamadou Issoufou, je me trompe?
Non, vraiment, quand j'ai entendu le cours du carbone, nous, on arrive difficilement à le vendre à 5 $ la tonne, difficilement, hein, vraiment. Récemment, une organisation suisse nous a proposé 3 euros. Donc, 20 $, c'est sûr que l'Afrique a les moyens. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses espaces de zone humide mangrove, le Sénégal 40%, que la zone humide est extrêmement importante parce que elle permet de réguler le taux de sel dans le continent. Les champs de riz sont très proches de ces zones-là, en Casamance, dans le delta du Saloum. Je rappelle que la zone humide est très importante pour l'écosystème de juvéniles, de poissons et tout cela. Et donc, si le carbone est à 20 $, l'Afrique a tous les moyens d'ouvrir une banque verte ou une banque carbone.
Merci beaucoup à tous. Tosin Panumpanou, peut-être une réaction à les 20 secondes en guise de conclusion sur le propos que vous venez d'entendre du président nigérien.
Je pense qu'il semble être très au courant des priorités africaines. C'est très très impressionnant. J'ai cru entendre un expert en négociation sur le climat.
Et donc... C'était Diouf, elle abonde, elle fait signe de la tête.
Voilà, et ça fait plaisir.
Bon, merci beaucoup à tous. Haïdar El Ali, activiste d'abord et puis aussi ancien ministre de l'Environnement du Sénégal, Aissatou Diouf, chargé de plaidoyer climat à l'ENDA, et Tosim Panoum Panou, négociateur de la RDC et porte-parole, République démocratique du Congo, et porte-parole des pays les moins avancés à cette COP21. Allez, dernière petite information quand même, très importante. Je voudrais mentionner la note de la Fondation de l'écologie politique COP21, réparer l'injustice climatique en Afrique, qui est disponible en français et en anglais, justement, sur le site de la Fondation de l'écologie politique. On mettra tout ça en lien sur le site de Culture Monde, coordonnée cette note par Benjamin Bibas. Et puis également une conférence qui aura lieu le 5 décembre prochain à 17h à l'espace Génération Climat, avec notamment l'un et l'autre, Haïdar El Ali et Aissatou Diouf, enfin, puisque vous avez participé à cette note. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, dans un instant sur France Culture, c'est la grande table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, comme chaque jour depuis le début de cette semaine, dans la vie moderne, le Parlement sensible, avec chaque jour un auteur qui dit un texte qu'il a écrit. C'est aujourd'hui Rapport parlementaire de Éric Chevillard. Très belle journée et à demain, toujours en direct de la COP21.